Tournez avec moi dans Matthieu, s'il vous plaît. On commence une nouvelle série ce matin. On commence une nouvelle série, puis contre-culture, c'est ça qui est écrit ici. C'est très, très, très tendance hein, d'être contre-culturel. Si vous suivez un petit peu les médias, vous écoutez la télé, vous suivez les artistes montants, c'est comme toujours ça. Ils veulent être comme marginal, un petit peu à côté, à contre-courant. Puis dans le fond, ils sont vraiment dans la tendance, mais ils essayent de sonner comme étant un petit peu en marge, un petit peu à côté. Mais peut-être que pour l'Église, apporter une saveur nouvelle, être contre-culturel, venir apporter quelque chose de frais à la culture, peut-être que pour l'Église, ça veut seulement dire de plonger davantage nos racines dans l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a dans l'Évangile de Jésus-Christ, dans l'œuvre qu'il a déployée à la croix, mais à travers son Église ensuite, il y a suffisamment pour former une communauté qui va être bouleversée elle-même, dont la culture intérieure de l'Église va être transformée, va être façonnée, qui va donner une saveur différente au monde, qui va apporter un éclairage différent sur l'humanité, sur la société. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette série-là? On veut pas essayer de réinventer l'Église. L'Église, à travers les cultures dans le monde, à travers les âges, prend des fois des couleurs un peu différentes, de style, de forme, des choses comme ça qui sont vraiment secondaires. Et si vous voyagez de par le monde, même juste au Québec, vous allez voir des églises avec une culture interne qui est différente. C'est pas vraiment de ça qu'on parle. Ce qu'on veut faire ensemble, c'est qu'on veut, oui, prendre le temps d'examiner la culture de cette Église-ci et se poser la question jusqu'à quel point l'Évangile de Jésus-Christ l'a vraiment transformé, l'a vraiment renouvelé. Et je vais vous donner un exemple d'un texte qui résume un petit peu cette pensée-là. Vous trouvez ça sur le site web, admettons, d'Évangile 21 en Europe. Vous trouvez ça sur Gospel Coalition, sur TGC Canada, sur le site de Sola, un peu partout dans le monde. Puis ça résume bien cette pensée-là. D'accord? Soyez attentifs. Parce que l'Évangile supprime aussi bien la crainte que l'orgueil, des personnes jadis incapables de s'entendre en dehors de l'Église devraient pouvoir vivre en harmonie dans l'Église. Parce que l'Évangile, parce qu'il oriente notre regard vers un homme qui est mort pour ses ennemis, l'Évangile crée des liens de service plutôt que d'égoïsme. Parce que l'Évangile nous appelle à la sainteté, les membres du peuple de Dieu entretiennent entre eux, dans l'amour, des rapports de responsabilité et de discipline mutuelle. L'Évangile crée donc une communauté humaine radicalement différente de n'importe quelle société qui l'entoure. Alors, c'est ça qu'on veut faire ensemble à travers cette série-là. On va être attentif puis demander à Dieu, cette Église-ci a sa culture à elle, chaque Église a leur culture, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a dans cette culture-là qui n'a pas été imprégné, transformé, façonné entièrement par l'Évangile. Et donc, on va couvrir plusieurs sujets. Je vous donne quelques exemples. Ce matin, on se concentre sur ce passage-là qu'Hugo a cité tout à l'heure, cette idée que l'Église n'existe pas pour l'Église, mais qu'elle est une lumière pour le monde. Ensuite de ça, on va parler de l'unité dans un monde divisé qu'on doit trouver à l'intérieur de l'Église. Cette attitude de service, une générosité qui se démontre, qui se manifeste. Le fait que dans l'Église, on doit trouver une vérité au milieu d'un monde confus. On va parler d'une Église qui vit de la joie au milieu de la souffrance. Et ça, c'est contre-culturel dans notre société qui veut éviter toute souffrance possible. Et enfin, on va terminer cette série-là de cette semaine en se tournant vers l'Esprit-Saint et en reconnaissant que cette œuvre-là, c'est une œuvre qui se fait par l'Esprit de Dieu. C'est pas juste avec des enseignements, c'est pas juste en essayant de changer notre pensée par nous-mêmes, mais c'est en laissant l'Esprit-Saint venir façonner nos cœurs, venir nous réformer de l'intérieur, venir nous bouleverser. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la série? Ben, vous pouvez attendre à être dérangé. Vous pouvez vous attendre à ce que vous ayez des moments de doute où vous manquez de foi, puis vous dites, Yannick, c'est beau, là, ça c'est le texte, tu sais, mais moi je vis dans la réalité, bonhomme. Et donc, ça se peut que vous soyez choqués par moments, ça se peut que vous dites, tu sais quoi, là, il m'en demande encore plus. Moi, ce que je vous demande de faire, à chaque fois que cette série-là va vous bousculer, posez-vous la question, est-ce que c'est la parole de Dieu qu'on est en train d'enseigner ici? Et deuxièmement, allez dans la prière. Allez dans la prière parce que chaque fois que la parole de Dieu est exposée et que nos cœurs réagissent avec des doutes, que nos cœurs réagissent avec une réserve, une réticence, à chaque fois, ceci est en train de mettre en lumière un conflit qu'on a quelque part dans notre foi avec Dieu. C'est comme, je l'ai vécu, je l'ai essayé, ça ne marche pas. On a besoin de foi. C'est mon rapport avec Dieu qui pose problème parce que ce texte-là que tu me lis ce matin, j'y crois plus. Je le dirai pas, mais dans mon cœur, je pars d'ici puis je dis, il n'y a rien pour moi. Alors que le texte était limpide, il y avait quelque chose pour moi. Mais ça demandait encore la foi. Et donc, ça se peut qu'à un certain moment donné, ou même à plusieurs occasions pendant la série, vous dites, Yannick, c'est pas ça mon expérience, c'est pas ça l'Église, je connais l'Église, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis dans l'Église, c'est pas ça l'Église. Mais priez, priez avec nous, parce que Christ aime son Église plus que personne ici. C'est lui qui l'a bâti et il veut que son Évangile façonne complètement la culture de cette Église-là. Et il va le faire, c'est ça qu'il est en train de faire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux premièrement te remercier, te rendre grâce, parce que tu es venu sur la terre nous faire connaître Dieu le Père comme il n'avait jamais été connu avant. Et ça, c'est venu transformer notre vision de Dieu, notre vision de l'être humain. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, à travers cette œuvre-là, tu as créé l'Église. Tu as créé l'Église partout sur la terre, une communauté nouvelle. Et tu as donné à cette Église-là, en la créant, tu lui as donné l'Évangile. L'Évangile vient façonner notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière d'expérimenter la vie, Seigneur. Enfin, Seigneur Jésus, je veux te remercier. Parce que tu aurais pu tous nous prendre dans la gloire à chaque fois qu'une personne vient à la connaissance de Jésus-Christ, entrer dans la gloire comme on l'attend, Seigneur. Comme je l'attends impatiemment de plus en plus. Mais je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as donné l'Église au monde, comme une lumière, Seigneur, qui est là pour apporter une saveur nouvelle dans ce monde. Et je te prie, Seigneur, de venir nous parler, de nous faire grandir comme Église et comme individu à travers cette série. Viens, Seigneur, nous conduire dans ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors aujourd'hui, on va lire deux courts passages. Tout d'abord dans Matthieu, chapitre 5, les versets 14 à 16. Ensuite, on va tourner dans Luc, au chapitre 5 aussi, les versets 27 à 32. Et je vais vous lire dans la version Louis II, 21. Alors, Matthieu 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Dans Luc chapitre 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes, il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. »
Merci Stéphane. Je pose une question en partant. Ce matin, ça va être vraiment une courte introduction qu'on va faire à la série, mais on veut déposer quelque chose d'essentiel ce matin. Qu'est-ce que c'est pour vous l'Église? Et si vous demandiez... Pour vous, premièrement, mais deuxièmement, pour des gens à l'extérieur, pour des amis, pour des collègues de travail. C'est quoi l'Église selon eux? Ce serait quoi leur réponse? Est-ce qu'ils vous diraient, ben, je pense que c'est un truc pour les vieux. Il faudrait qu'ils viennent visiter l'église ici, hein? On voit que c'est vraiment pour toutes les générations, mais peut-être que ça qu'ils pensent, c'est un truc pour les vieux, c'est quelque chose de dépassé. Peut-être que c'est une patente pour les religieux, hypocrites, qui jugent tout le monde. Je pense que bien des gens pensent ça. Peut-être qu'ils vous diraient, c'est quelque chose qui est dépassé dans le temps, qui colle plus avec l'époque, qui répond plus du tout à ce qui se passe dans la culture. Peut-être qu'ils vous diraient, l'Église, c'est une gang de personnes pas mal « weird ». Je pense qu'il y aurait un peu raison, parce que je connais plusieurs d'entre vous. Moi, le premier. Moi, je vais vous dire pour moi c'est quoi l'Église cette semaine. OK? J'ai pris le temps de réfléchir à cette semaine, dans les 7 derniers jours. Tout ce que je vais vous dire là, c'est dans les 7 derniers jours. Je me suis arrêté parce qu'il faut aussi qu'on se tourne vers la parole à un moment donné. Ça va? C'est quoi l'Église pour moi cette semaine? L'Église, pour moi, cette semaine, ça a été un moment vendredi soir où, dans le cadre de porte, alors que je saluais les gens, il y a un jeune homme de 25 ans qui est venu me voir pour me dire qu'il avait vécu des épreuves terribles dans les derniers temps, où il s'était senti complètement démuni, fragilisé, bouleversé par toutes sortes de choses. Et ça l'avait conduit à faire quoi, cette souffrance-là? À se tourner vers Dieu. Puis on était là, puis on partageait dans le cadre de porte, puis on partageait à quel point... Parce qu'il avait Dieu dans sa vie et moi-même pour l'avoir vécu, dans nos moments les plus fragiles, il y a comme quelque chose de paradoxal où tu sens que c'est vraiment Dieu qui est en train de faire une œuvre belle et profonde dans ta vie. Ça, c'était l'Église pour moi cette semaine. Puis il partageait à quel point, à travers tout ça, ce que ça a ramené en lui, c'était le désir de servir, d'être là pour les autres autour de lui. L'Église, pour moi, c'est mercredi soir, alors que je m'en vais saluer quelqu'un ici, puis il y a un monsieur qui m'accroche puis qui dit, « On est tellement bien reçus ici. Il y a tellement d'amour ici. Je veux vous remercier. » Puis il insistait. Puis là, j'essayais comme de me justifier en disant, « Ben c'est ça qu'on essaye de faire. » Tu sais, mais non, il me dit, « Non, c'est ça qu'on vit ici. » Ça, pour moi, c'était ça, l'Église, mercredi soir. L'Église, pour moi, cette semaine, ça a été une jeune femme qui me donne des nouvelles de sa grand-maman, qui sent qu'elle s'en va bientôt rejoindre le Seigneur, qui aurait besoin d'être plus entourée, puis qui, en même temps, qui est profondément en paix avec son éternité. L'Église, pour moi, cette semaine, ça a été des amis musulmans qui sont venus au concert de Yatal vendredi soir, puis qui sont venus me saluer, puis qui insistaient pour me dire, « Merci pour votre amitié. Merci pour votre amitié. » L'Église, pour moi, cette semaine, ça a été de m'asseoir avec deux dames qui veulent comprendre la Bible et de leur expliquer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, 66 livres, puis Israël, puis l'Église, puis qu'est-ce qui se passe, pourquoi le ton change tellement. L'Église, pour moi, cette semaine, ça a été des échanges de courriels pour préparer une rencontre, pour travailler à la résolution d'un conflit qui dure depuis très longtemps. L'Église, pour moi, cette semaine, ça a été d'aider une dame qui vient pas à l'Église encore, mais qui chemine sérieusement vers l'Évangile, puis qui a besoin d'un lift lundi matin à 6 h du matin pour se rendre à l'aéroport Trudeau parce qu'elle doit aller témoigner en cours dans le nord du Québec. Puis comment je vais trouver quelqu'un? Attends un peu, je vais demander à l'Église. Puis l'Église est disponible. Ça, pour moi, c'était l'Église cette semaine. C'est ça, l'Église. Et ma prière et notre prière à travers cette série-là, c'est que le monde voit cette Église-là. C'est tout. C'est que le monde à l'extérieur voit cette Église-là. C'est que toi, tu vois cette Église-là, si c'est pas ton expérience. Et je sais que pour la majorité d'entre vous, si on s'assoyait ensemble, vous pourriez continuer à ajouter parce que vous avez vu l'Église de Jésus-Christ faire de bonnes œuvres. Et notre prière, c'est tout simplement que cela explose, que ça se multiplie par 10 et que la communauté du Grand Longueuil, de la Montérégie, voit cela à travers l'Église ici, à travers l'Église Nouvelle Vie sans frontières, toutes les églises que Dieu a établies un peu partout, qu'ils voient ces œuvres-là, cette lumière-là qui brille parmi les ténèbres. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que l'Église n'existe pas pour l'Église, mais pour la gloire de Dieu parmi le monde. Et des fois, on a l'impression qu'on doit comme tout repenser l'Église. Mon expérience à moi, c'est qu'à force d'être dans l'Église, on ne réalise pas qu'est-ce qui se passe ici. On s'accroche, puis il y a des blessures, il y a des offenses, on a nos déceptions personnelles, on est distrait par toutes sortes de soucis, et on perd de vue à quel point Jésus-Christ et la puissance de l'Évangile fait des choses extraordinaire au quotidien dans l'Église. À travers l'amour, l'affection, l'entraide, la disponibilité, la charité, les pardons, l'enseignement, les révolutions de pensée. Dieu fait des choses extraordinaires. Et à travers la série, on va souligner certains aspects de l'Évangile qui viennent nous façonner, qui viennent nous transformer. Et mon argument est celui-ci, et je crois que c'est l'argument de Jésus-Christ dans le passage de ce matin. Tout ce que le monde a besoin, c'est de voir ça, d'entendre ça, pour pouvoir trouver la réponse à cette énigme. Mais comment on fait ça? C'est avec l'Évangile de Jésus-Christ qu'on fait ça. Amen? C'est avec l'Évangile de Jésus-Christ qu'on fait ça. Et le monde a simplement besoin de voir et d'entendre cela. Et à travers ça, le Seigneur va augmenter le nombre des adorateurs qui célèbrent sa gloire. Ici, partout à Longueuil et dans le monde, si le monde voit cette lumière qui brille. L'Église est appelée à briller pour le monde. Tournez avec moi dans Matthieu 5, si vous n'y êtes pas. Matthieu 5, verset 14. Dans Matthieu 5, 14, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Je fais juste remarquer que ça se passe au tout début de l'évangile de Matthieu, puis les disciples ne sont pas vraiment établis. Ils commencent à découvrir Jésus-Christ, ils l'observent, ils sont intrigués, c'est un enseignant incroyable qui apporte des choses nouvelles, puis Jésus leur lance en pleine face. « Vous êtes la lumière du monde. » Les gars, ils n'ont même pas compris encore c'est quoi le christianisme. Les filles n'ont pas compris c'est quoi le christianisme. Ils sont tout mêlés là-dedans. La suite de l'histoire va le raconter. Puis Jésus leur dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Je ne sais pas si vous êtes comme les disciples ont pu se sentir. Moi, je me dis, si j'avais été à leur place, j'aurais eu deux réactions possibles. Un, c'est une déclaration super prétentieuse. « Vous êtes la lumière du monde. » Parce que tu ne me connais pas. Je ne suis pas la lumière du monde. Ou deux, c'est lourd. C'est lourd, cette affaire-là. C'est quoi cette responsabilité-là que tu veux mettre sur nos épaules? On est la lumière du monde. J'ai de la misère à éclairer mes semaines, puis à éclairer ma vie, puis à m'organiser. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Mais pour comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut simplement se rappeler d'où on vient. Il faut simplement se rappeler ce qui s'est passé dans nos vies, dans nos cœurs, lorsque l'Évangile de Jésus-Christ est entré dans notre vie. Et je vous cite le passage dans 1 Pierre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus et les qualités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Fait que je vous pose des questions comme ça pour vous aider à prendre conscience que dans le fond, vous y êtes probablement plus que vous le pensez. Est-ce que tu as compris quelque chose dans l'Évangile qui est venu bouleverser ta vie? Est-ce qu'il y a un avant puis un après? Je sais que c'est plus difficile lorsqu'on est né quasiment dans l'Évangile, on est né dans l'Église. Mais est-ce qu'il y a un avant, un après dans ta vie? Où l'Évangile est venu bouleverser quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu es passé d'un moment de lumière où tu as compris la réalité du péché, de ton cœur pécheur, où tu as saisi la grâce de Dieu pour toi? Si tu réponds oui, tu es passé des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu as compris que l'homme ne vit pas sur la terre pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu? Hey, ça, c'est un bouleversement majeur. Major, si tu as compris ça, tu as compris quelque chose que seul l'Évangile peut te faire comprendre, je te l'assure. Est-ce que tu as compris que notre Sauveur s'est fait serviteur sur la croix pour nous, et donc que notre joie dans la vie, c'est de devenir à notre tour des serviteurs? Quand tu possèdes ça, là, tu possèdes en toi-même une saveur, une couleur, une lumière que le monde ne connaît pas. C'est là, c'est en nous. Parce que cette grâce-là, cette grâce de l'Évangile, cette grâce de Dieu est venue bouleverser nos vies, nous amener à réaliser notre nature profondément pécheresse. Je ne suis plus en train d'essayer de me prouver au monde. Nous a aidé à réaliser la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Nous a aidé à réaliser que Yannick, ce n'est pas le centre de l'univers de Yannick. En réalité, c'est Dieu le centre de l'univers de Yannick et c'est Dieu le centre de l'univers, point. Et ça, c'est une grâce de Dieu. J'ai réalisé à cause de l'Évangile qu'il y a plus de bonheur à être un serviteur, à servir comme Christ l'a fait. C'est plus honorable, plus grand et meilleur pour moi que de me servir moi-même. Et ça, c'est l'Évangile qui l'a produit en moi. Quand tu possèdes ça, tu apportes une lumière. Et quand une église, quand 30 personnes, 60, 70 personnes à Rivière-du-Loup prennent conscience de cela ensemble et assument ça, quand 300 personnes ici dans cette église, 3000, 4000 personnes à Nouvelle-Vie, prennent conscience, assument cela, il y a véritablement une saveur qui est là pour le monde que le monde ne connaît pas. Il y a une lumière nouvelle à apporter sur la société à travers cela que le monde ne connaît pas. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est « cachez pas ça ». Cachez pas ça au monde. Restez pas enfermés sur vous-même. Ils doivent voir vos bonnes œuvres. Ils doivent vous découvrir. Ils doivent entendre le message. Cachez pas ça. Enfermez-le pas. C'est vraiment drôle, hein? Hugo puis moi, on s'était pas timé. Je vous l'assure. J'ai dit à Hugo tout à l'heure, en arrière. J'ai dit, c'est le passage de mon message ce matin, Hugo. Des fois, tu sais, on laisse le Seigneur faire sa job. Il a fait beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Ainsi, Jésus dit dans Matthieu 5, 14 et 15, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et il y a vraiment cette idée que l'Église a été donnée au monde. Dieu s'est racheté une Église pour qu'elle soit l'épouse de son Fils, pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'elle est ici sur la terre, cette Église-là? Moi, je pense, honnêtement, qu'on va être des meilleurs adorateurs de l'autre bord. Vous savez, quand les chants tournent, là, puis tu es en train de penser à ton dîner tantôt, puis « Ah oui, c'est vrai! » Tu sais, je pense pas que je vais faire ça quand je vais être comme oh. Je pense la dinde, j'y penserai pas. Tu vas être comme juste toi, Seigneur. Et pourquoi on est ici? On est ici pour que le monde voie nos œuvres et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'on est ici. On est ici pour qu'il découvre les œuvres de l'Église à travers la prédication de l'Évangile et tout ce que l'Évangile apporte dans nos vies comme transformation, afin qu'il glorifie non pas l'Église de l'espoir, pas qu'il dise « Ah, waouh, vous êtes une Église géniale! » Une des choses qui me fait le plus de peine, c'est quand quelqu'un me salue et il me dit « Aïe, j'en ai fait des églises, puis vraiment, vous êtes une église géniale. » Je m'excuse là, si c'est ça que vous m'avez dit. Je n'ai pas de visage en tête. Ça me fait tellement de peine. Parce que l'idée, c'est pas ça, vous comprenez? L'idée, c'est pas qu'on dise « Ah, waouh, enfin, on est une église hot, on vit l'Évangile. » Non, c'est parce qu'on vit pas l'Évangile si on vient de dire ça. C'est tout simplement que la gloire revienne au Père. À travers toutes les églises que Christ est en train de bâtir, partout dans la Montérégie, partout à travers le monde. Maintenant, souvent je crois que lorsqu'on pense à cette lumière-là qui doit briller, notre réflexe, c'est un réflexe de c'est pas une allusion politique, ok, mais de séparatiste. On veut se protéger. On a peur de perdre. Intéressant, j'ai entendu ça cette semaine. Je pense que les Québécois ont peur de perdre quelque chose. C'est vrai, je pense, hein? C'est un peu ça l'idée, peur de perdre. Puis des fois, l'Église, on a cette attitude-là. On a peur de perdre, donc on doit se protéger. Et quand on va penser à cette saveur qui est différente, on va penser à cette saveur-là en termes de tout ce qu'on ne doit pas faire, tout ce que l'Église ne doit pas être. Donc, on va prendre les Écritures, on va regarder l'Église, on va regarder le monde, puis on va dire, dans la culture, il y a ça. Non, ça, non. Ici, les excès d'alcool, dépendre, je m'en vais sur les drogues, puis je suis parti. Non, je veux pas faire ça. Être accroché à la pornographie, non, c'est pas bon. Poursuivre ma carrière comme un malade mental complètement, non, c'est pas bon. Donc, c'est toutes des choses, non, il faut pas faire ça. Non, on n'est pas des menteurs. Non, je vais pas voler mon patron avec du temps, avec des biens matériels. Non, non, non. Et dans un sens, c'est vrai. Les 10 commandements sont formulés dans « tu ne feras pas », hein. Et donc, dans un sens, c'est vrai. Mais en même temps, tour après tour, dans le Nouveau Testament, je vois la plénitude de l'Esprit produire des œuvres. Non pas seulement nous amener à ne pas faire, mais au contraire, à faire des choses pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on pense à la joie que l'Évangile apporte, c'est la joie que je vais apporter au travail. Littéralement, c'est la joie que moi j'apporte au travail quand tout le monde est down au travail puis tout le monde est tendu. C'est la patience que je vais avoir lorsque j'arrive à un comptoir puis ça tarde pour le service puis c'est ça que l'Évangile va produire en moi, cette grâce-là envers l'autre parce que Dieu m'a fait grâce. Et donc, je vais apporter ça à la maison aussi. Ça va être la générosité de donner du temps pour aider des gens quand ça fait juste pas dans mon temps. Je vous en ai donné des exemples tout à l'heure. Donner du temps pour aider, pour faire ce stretch-là qui dépense. L'amour d'aller vers le gars ou la fille au bureau qui est différent par sa culture, sa religion, ses origines, puis qui a de la difficulté à vraiment s'intégrer. Puis tu sais, quand tu vas y parler, peut-être que la barrière de la langue fait juste que c'est vraiment long, puis finalement, j'ai juste une heure de lunch après tout. Mais toi, à cause de l'Évangile, tu es sensible à celui qui est étranger. Parce que tu sais c'est quoi être étranger à la maison de Dieu, puis aujourd'hui être étranger dans le monde. Et donc, cette puissance-là de l'Évangile. Et c'est ce que l'Église devient ensemble. Et donc, je vous invite à travers la série à ouvrir votre esprit, peut-être pas pour ça. On a fait les 10 commandements, hein? Vous pouvez aller les réécouter si vous voulez. Mais là, on se tourne vers quelque chose d'autre. Quelle est la lumière, quelle est la saveur que Dieu veut produire dans l'Église, au milieu de nous ici, qui va rejaillir vers le monde, afin qu'il voie nos bonnes œuvres, et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Et on va se tourner juste quelques minutes dans l'autre passage, dans Luc 5, et on va aller voir comment Jésus a appliqué ça, comment Jésus l'a incarné. On dépose une base cette semaine, puis après on va commencer à aller voir chacune des manières par lesquelles l'Église est une lumière pour le monde. On lit dans Luc 5, 27 à 30. « Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain. » Nommé Lévi, celui qui va être plus tard appelé Matthieu, qui va écrire l'Évangile selon Matthieu, assis au lieu des péages, et il lui dit, « Suis-moi !» Et laissant tout, il se leva et le suivit. Il avait son comptoir avec son cash, puis tout le kit, c'est un collecteur, hein, collecteur d'impôts, c'est ça qu'il faisait. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains puis les gens de mauvaise vie? » Un publicain, on l'a souvent dit, c'était un collecteur de taxes, c'était un collabo. C'est ça, c'est un collabo. C'est quelqu'un qui collabore avec l'Empire, avec l'ennemi. Puis je vous ai déjà expliqué à quelques reprises, le principe est assez simple. Tu as une cote à fournir, tu t'arranges pour la livrer. Combien tu vas prendre d'extra, ça c'est ton problème, bonhomme. Tant que tu livres ton quota, tu t'arranges avec ça. Et donc, les collecteurs d'impôts mettaient de la pression, il y avait une garde armée avec eux, ils collectaient les impôts, ils mettaient de la pression pour avoir le maximum. Dès qu'ils dépassaient leur cote, c'était dans leur poche, vous comprenez? Donc, ces gens-là étaient profondément détestés, c'était des collaborateurs. Ils étaient haïs par leur peuple. Mais quelque chose qui ressort, Jésus se tenait avec ces gens-là. Jésus était auprès de ces personnes-là. Alors évidemment, il se fait critiquer, il se fait attaquer par ceux qui estiment qu'il ne faut pas se tenir avec des gens comme ça. Puis dans le fond, le discours qui est derrière ça, c'est que ces gens-là sont en train d'afficher qu'ils n'ont pas vraiment besoin de Jésus. Parce que qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus se tenait avec les gens qui voulaient se tenir avec lui. C'est une autre manière de le dire, hein? Jésus allait sur la place publique, il annonçait la parole de Dieu, il annonçait le royaume de Dieu, puis il enseignait, puis il y avait des gens qui le regardaient de distance, puis qui le jugeaient, puis qui n'avaient pas vraiment besoin de lui. Mais il y en avait d'autres qui disaient, « Je veux t'entendre plus. » Puis là, il allait vers eux, puis leur disait, « Reçois-moi chez toi, je veux rentrer dans ta maison. » Ces gens-là étaient confus. « Tu veux rentrer dans ma maison à moi? Tu es un docteur de la loi, tu ne veux pas rentrer dans ma maison à moi, tu ne sais pas ce que ça va faire à ta réputation. » Puis dans le fond, c'est ça qu'on voit à travers tout l'Évangile. Hein? Christ se tenait avec les gens qui voulaient de lui, qui avaient besoin de lui. Et je crois que c'est une des choses qu'on a à apprendre comme Église. J'ai à cœur les gens de ma famille, j'ai à cœur les gens qui sont autour de moi. Mais il y a des gens dans cette ville qui, si vous allez vers eux, puis ils voient la beauté de l'Évangile, il voit votre amour, il voit votre charité, il voit vos bonnes œuvres, il voit votre patience, il voit votre douceur, qui vont être ouverts à recevoir cette aide-là. Il y a des gens dans la ville de Longueuil qui sont ouverts à ce qu'on les aide. Ils ne sont pas au-dessus de ça. de toutes sortes de manières, pas simplement avec la banque alimentaire, mais ils sont ouverts à ça. Et vous allez découvrir assez vite, comme je l'ai découvert, que lorsque vous commencez à les aimer puis à être là pour eux, ils sont ouverts aussi à votre message. Ils ont du respect pour qui vous êtes, parce qu'ils ont du respect pour qui vous êtes, ils veulent entendre votre message. Est-ce qu'ils vont venir au Seigneur? Et ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. On prie, puis on témoigne, puis on les aime. T'sais. Ça, c'est la part de Dieu. Mais on l'annonce, l'Évangile. Mais on l'annonce avec d'autant plus d'aisance qu'il y a cette ouverture-là qui est là parce qu'ils sont ouverts à ce qu'on aille les aider. Et peut-être que cette série-là va venir vous brasser de cette manière-là. Peut-être que Dieu va vous amener à vous remettre en question puis à vous poser la question, est-ce que les gens qui vous entourent, ce sont des gens qui sont ouverts à ce que vous alliez vers eux? Ou est-ce que c'est des gens très occupés pour qui, lorsque vous allez commencer à leur parler de l'Évangile, la première réponse, ça va être « c'est une béquille intéressante. » Parce que comprenez bien que c'était ça que les pharisiens pensaient de Jésus. Il le regardait de haut et il jugeait ses enseignements. C'est ça qu'il faisait. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas témoigner à un collègue, puis il ne faut pas essayer des fois de faire des échappées avec la POC, puis « Oh, tu sais, j'ai semé une réflexion, puis il va y penser au moins. » Tu sais. Définitivement, il faut le faire. C'est clair qu'il faut le faire. Mais remarquez, observez la réaction de Lévi. « Suis-moi. » Je ne sais pas, tu sais, s'il avait dit aux pharisiens « Suis-moi. » Laisse tous tes principes, tous tes préjugés, tu sais, tes self-righteousness, toi t'es droit, t'es un... Non, abandonne tout ça, suis-moi. Mais Lévi, lui, l'a suivi. Et donc, Jésus se tenait avec des pécheurs. Jésus aimait être avec des pécheurs. Et il y a des gens dans la société vers qui tu vas puis tu leur dis, tu sais, on est vraiment une gang de tout croche, qui disent, mais en qu'on est une gang de tout croche. Il y en a d'autres, peut-être toi. Je sais pas. Peut-être toi, c'est peut-être pour ça que tu as une béquille, tu sais, qui s'appelle Jésus. Mais il y a des gens dans la société qui disent, je le sais qu'on est tout croche. Et Jésus aimait ça, se tenir avec des tout croches. C'est comme paradoxal, hein, parce que dans le psaume 1, il est dit qu'il faut pas se tenir en compagnie des moqueurs, s'asseoir en compagnie des pécheurs. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il est littéralement assis dans la maison d'un pécheur notoire avec des pécheurs. Mais Jésus n'est pas là pour que ce soit pour être intégré dans leur culture. Il est là pour briller de sa lumière au milieu de leur culture. Et donc, il n'a pas peur de ça. Il ne craint pas cela. J'ai écrit dans le plan, quand l'Église n'a plus besoin de Jésus. C'est arrivé souvent à travers l'histoire de l'Église. Que l'Église en vienne à avoir une attitude un peu comme les pharisiens. On va le résumer en trois mots, d'accord? Légaliste, séparatiste, élitiste. Légaliste parce que l'Église en vient à se dire qu'elle est différente, puis parce qu'elle est différente, Dieu l'aime. Elle vit différemment, puis parce qu'elle vit différemment, Dieu l'apprécie. On l'a vu à travers l'histoire de l'Église. Je pourrais vous donner des exemples en 2000 ans. Je pourrais vous en donner. Je l'ai vu à travers l'histoire de cette Église-ci être la deuxième, séparatiste. Il faut se tenir loin d'eux, il faut se tenir absolument loin d'eux parce qu'ils pourraient nous contaminer. Et donc, tout ce qu'ils font, nous, il ne faut pas le faire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. On est séparatiste ou élitiste encore. On les regarde de haut, avec un mépris. Ces gens-là sont sales. Cette Église-ci a déjà été un peu comme ça. J'ai déjà raconté des histoires qui sont vraiment honteuses. Mais cette Église-ci a déjà été comme ça. Elle n'est plus comme ça, je peux vous l'assurer qu'elle n'est plus comme ça. C'est vraiment une grâce pour moi de servir le Seigneur avec vous, parce que cette Église-là n'est plus comme ça. Mais je pense que le Seigneur veut nous amener plus loin encore, puis veut nous faire grandir. L'Église est toujours en danger de développer des attitudes semblables à celles-là. Légalistes, séparatistes, élitistes. Alors que tout ce qu'on a à faire, c'est faire ce que Lévi a fait. J'aimerais ça inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Lévi a fait, c'est qu'il a lancé un party pour Jésus. Pensez-y une seconde. Quand j'ai marqué party, là, j'avais une discussion cette semaine avec quelqu'un qui corrige, puis là, tu sais, party. Mais pensez-y une seconde, c'est un publicain. Vous comprenez? Il se tient avec des débauchés. Puis les Écritures me disent, qu'est-ce qu'il a fait, Lévi? Il a lancé un festin. Il y avait de la boisson là-dedans, il y avait de la fête, il n'y avait pas comme un pécheur entouré des disciples de Jésus puis qui est en train de passer à la confesse. C'était pas un temps de confesse. Il a invité ses chums tout croche comme lui, il a rempli la cabane puis il a dit « on fait un party pour Jésus ». C'est ça qu'on fait, littéralement c'est ça. Et donc tout ce que Jésus a fait, il a dit à Lévi « suis-moi ». Sans poser de questions, Lévi a laissé toutes ces affaires-là, puis il a suivi. Et on sait que c'est pas une métaphore, d'accord? C'est pas comme il laisse ça, ces choses-là, mais après ça, il continue. Lévi, c'est Matthieu, c'est celui qui a écrit l'Évangile selon Matthieu. Vous comprenez, ce gars-là va perdre ses économies, il va perdre sa business. Il avait déjà une mauvaise réputation, il va la ternir encore plus en devenant un disciple de Jésus. Il va tout perdre pour suivre Jésus. C'est ça, Lévi. Mais tout ce qu'il a fait, simplement, il a décidé de suivre Jésus. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fête pour Jésus. Mais c'est ça que Dieu nous appelle à faire comme Église. Et à travers la série, c'est ça qu'on demande à Dieu de faire dans nos cœurs. Avec simplicité, au lieu d'avoir des doutes parce que Dieu va brasser un peu la culture de l'Église, avec ouverture, on se lève et on suit Jésus. Amen? On se lève, on suit Jésus. Puis qu'est-ce qu'on fait? On fête Jésus-Christ ensemble. Vendredi soir, ici, il y avait un méchant party pour Jésus-Christ. Et moi, j'avais plein d'amis, plein d'invités qui ne sont pas chrétiens, qui étaient là, puis vous savez quoi? Ils ont vraiment eu un bon temps, puis ils ont trouvé ça génial, puis je sais qu'on va continuer les conversations. Le dimanche matin, lorsque Justin s'avance ici avec sa gang, c'est quoi qu'il est en train de faire? On est en train de faire un party pour Jésus, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de chanter sa gloire, ses louanges. On ouvre sa parole, on va vers les Écritures pour que Dieu nous brasse. Lorsque vous réunissez un petit groupe de quartier, puis vous partagez un repas, vous partagez des épreuves, des difficultés, vous allez dans la prière, vous avez des amis non chrétiens qui sont là, c'est quoi que vous faites? C'est ça que vous faites. Vous êtes en train de célébrer qui est Jésus-Christ par cette ouverture-là. Jésus-Christ nous invite, Église de l'Espoir, à continuer à grandir dans l'Évangile. Et il veut venir brasser dans les prochaines semaines la culture de cette Église. C'est ça qu'il veut faire. On ne va pas réinventer l'Église. Vous n'entendrez peut-être rien de nouveau. Mais peut-être que Dieu veut faire une œuvre nouvelle dans votre cœur. Parce que l'Église n'existe pas pour l'Église. L'Église existe pour le monde à la gloire de Dieu. Autrement, l'Église serait déjà avec Jésus-Christ. Mais on est ici pour que cette lumière-là apporte un éclairage nouveau sur le Grand Longueuil. On est ici pour que cette lumière-là qu'on vit ensemble apporte une saveur nouvelle. On est ici pour nous s'ouvrir vers l'extérieur. Et plus on est en relation avec des gens qui connaissent pas Christ, mais qui entrent en relation non seulement avec toi, parce que tu les as invités à manger chez vous, mais avec d'autres chrétiens, parce que tu as invité des amis chrétiens. Non seulement avec toi au travail, mais avec ton petit groupe, parce que tu les invites à servir avec toi dans ton petit groupe. Non seulement avec toi qui es là, avec ton petit lumignon, puis tu essaies de briller du mieux que tu peux, mais avec l'Église de Jésus-Christ. Et je vous dis, parce que les gens du monde rencontrent l'Église de Christ, ils découvrent nos belles œuvres, nos bonnes œuvres, et ils commencent à se poser des questions. Et Dieu va conduire des âmes à glorifier notre Père qui est dans les cieux. Pas parce qu'on est une bonne église, pas parce qu'on est une super église, parce qu'il est un super Dieu qui a mis en nous l'Évangile de Jésus-Christ. On va prier. Père éternel, marcher dans tes voies en se levant simplement comme Lévi à ta suite, Seigneur Jésus, en te suivant, en laissant là tout ce qu'on a par la foi. Puis en t'invitant dans notre maison, Seigneur, pour écouter ta voix, pour entendre tes paroles qui ont bouleversé Israël, l'Empire romain, l'Occident, et qui est en train, tes enseignements sont en train de bouleverser la terre, Seigneur, littéralement, actuellement, en Asie, en Afrique, comme on l'a pas vu depuis longtemps, Seigneur, en Amérique latine. Tes enseignements sont en train de pénétrer la Chine, Seigneur, comme jamais dans son histoire. C'est glorieux. Et Seigneur, tu nous as placés ici, nous, au milieu du Grand Longueuil, de la Montérégie, avec d'autres de tes églises, Seigneur. Et tu nous as placés pour être la lumière du monde, pour apporter une saveur nouvelle, une lumière nouvelle, Seigneur. Viens nous parler à travers cette série. Viens exalter ton nom, Seigneur. Viens élever ton nom, Seigneur Jésus, dans nos cœurs. Et là où on manque de foi, viens nous donner la foi. Là où on manque de joie, viens nous donner la joie, Seigneur, d'exalter ton nom. Et les hommes, Seigneur, verront, découvriront nos bonnes œuvres et glorifieront ton nom avec nous. Amen. Amen.